Bonjour Raphaël.
Bonjour Eric, bonjour à tous. Ce sont les 20 ans de l'attentat de Karachi aujourd'hui. 11 Français avaient perdu la vie dans une attaque contre leur bus au Pakistan. Nous écouterons un survivant handicapé à vide dans quelques instants. La gauche en ordre de bataille pour les élections législatives. La nouvelle coalition, la NUPES, s'est affichée derrière Jean-Luc Mélenchon en Seine-Saint-Denis hier. Il y avait de l'enthousiasme dans la salle. Et puis à suivre, les nationalistes arrivent au pouvoir pour la première fois en Irlande du Nord. Un nouvel homme fort à la tête de Hong Kong depuis cette nuit. Et puis l'actualité sportive, Laetitia Bernard nous rejoindra pour le journal des sports. Nous reviendrons sur la victoire de Nantes hier soir en finale de la Coupe de France de football. Premier titre en plus de 20 ans pour les Canaries.
Dans 20 minutes, notre invité à propos ce matin des célébrations du 9 mai, demain en Russie. Alors quel sens aura le discours de Vladimir Poutine et la parade militaire à Moscou? On va en parler ce matin donc avec une spécialiste de la Russie, Marie Mindras.
France Inter.
C'était un 8 mai 2002, il y a 20 ans donc. 11 Français étaient tués dans un attentat à Karachi au Pakistan. Leur bus était visé par une voiture piégée. Ces employés de la DNC, la direction des constructions navales de l'époque, travaillaient sur des sous-marins fournis par la France au Pakistan. Le bilan total atteint 14 morts mais également 40 blessés comme Michel Bongère, un cher bourgeois blessé au pied et toujours en béquille aujourd'hui. Sarah Saltiel-Rago l'a rencontré à Cherbourg.
Pour Michel Bongère, la vie a complètement basculé il y a 20 ans.
Je suis mort le 8 mai 2002. Voilà, c'est clair. Il faut bien que les gens comprennent ça aussi. Même si on est blessé, dans un truc comme ça, on peut pas s'en sortir indemne. Preuve en est, et là ça fait mal, quand vos enfants vous disent « Ben papa, je me rappelle pas comment tu étais avant ».
Aujourd'hui, certains volets de ce qui est devenu l'affaire Karachi ne sont toujours pas élucidés. On ne connaît pas les raisons exactes de l'attentat. Mais pour se rescaper, il faut dépasser cela.
Je sais pas si on arrivera à trouver un jour le qui, pourquoi. Et en 20 ans, c'est toujours les mêmes questions. C'est une case qui n'est pas résolue. On peut pas se borner à rester dans son truc. Non, puis vis-à-vis des autres de la famille, ce serait invivable.
Le plus difficile a été de retourner au travail. Il a fallu adapter son poste à sa condition physique. Michel s'est aussi engagé dans une association.
Il faut prendre des initiatives. Bon, moi, depuis ça, je me suis beaucoup investi dans l'associatif de mémoire. Et donc, voilà, ça fait 10 ans que je suis président d'une association d'anciens combattants.
Les commémorations ravivent tout de même les souvenirs, mais pour Michel, c'est important.
On a voulu rendre hommage à tout ça au bout de 20 ans, et la municipalité de Cherbourg s'est vraiment investie là-dedans, et c'est très 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 bien.
Michel Bongère invite d'ailleurs tous les cherbourgeois à participer aux commémorations de cet attentat qui a marqué la ville.
Voilà, Sarah Saltiel-Rago à Cherbourg. Cherbourg, une cérémonie d'hommage est prévue en début d'après-midi, en présence notamment de l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui du temps où il était député de l'opposition avait été rapporteur d'une mission parlementaire. Car cet attentat de Karachi avait mis en lumière un vaste système de rétrocommission sur les contrats d'armement conclus entre la France et le Pakistan. Il n'y a d'ailleurs pas de lien encore officiellement établi entre ces commissions et l'attentat, mais la piste est envisagée, exactement. On ne connaît toujours pas la raison exacte de l'attaque. Écoutons l'avocat des familles de victimes de l'attentat de Karachi, Olivier Maurice.
Ce qui est intéressant, c'est que les juges d'instruction qui ont reçu récemment l'ensemble des parties civiles ont évoqué différentes hypothèses pour justifier cet attentat et l'hypothèse qui leur a semblé la plus plausible encore aujourd'hui, c'est cette fameuse piste de représailles et du lien d'indivisibilité qu'il y aurait en quelque sorte entre le volet financier et le volet terroriste. Et je crois qu'il est aussi absolument indispensable qu'il puisse y avoir une levée du secret défense beaucoup plus grande que ce qui a été fait jusqu'à présent, car les juges d'instruction eux-mêmes ont souligné l'opacité de cette déclassification.
L'avocat des familles de victimes de l'attentat de Karachi, Olivier Maurice, et on le rappelle, le volet financier de l'affaire Karachi a conduit à la condamnation à 2 ans de prison avec sursis de François Léotard pour abus de biens sociaux, l'ancien ministre de la Défense soupçonné d'avoir mis en place le système de commission pour financer la campagne électorale d'Édouard Balladur en 1995. L'ancien Premier ministre a, lui, été relaxé par la Cour de justice de la République.
La politique, le second quinquennat d'Emmanuel Macron commence à peine et déjà donc cette bataille électorale.
Les élections législatives les 12 et 19 juin prochains, avec déjà une certitude, les principales forces de gauche se présentent unies derrière Jean-Luc Mélenchon sous la bannière de la NUPES, la nouvelle Union populaire écologique et sociale regroupant les insoumis, les socialistes, les verts et les communistes. Antoine Gignot était à Aubervilliers hier pour le lancement officiel de cette campagne des législatives.
Ils sont côte à côte, les bras levés pour faire le V de la victoire face à Jean-Luc Mélenchon.
C'est la première fois qu'il y a un accord général.
Un séisme politique pour des militants comme Christian.
Je suis une personne qui a été communiste pendant de très longues années, mais je vais m'engager dans cette bataille des législatives comme sûrement jamais je me suis engagé vraiment. J'ai le sentiment de vivre un moment d'histoire.
À la tribune, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, prend ses distances avec le quinquennat Hollande et la loi El Khomri, acclamée par la foule.
Faites enfin ce que vous croyez !
Sous les yeux émus de Paul, fonctionnaire encarté au PS.
Le premier tour de l'élection présidentielle a été vraiment un déclic. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a fait un pas vers la position d'Europe Écologie des Verts et du PS en disant qu'on voulait quand même rester dans l'Union Européenne. Et le Parti Socialiste et Europe Écologie des Verts ont aussi fait un pas en disant qu'on pouvait ne pas respecter les règles. On s'est retrouvés sur une position commune.
Une position applaudie par beaucoup d'élus comme Antoine Martin qui fait déjà partie à Tours d'une équipe municipale qui regroupe l'ensemble de la gauche.
Il y a de l'incertitude évidemment, mais... De toute façon, on n'a pas le choix. On est au pied du mur et on arrive à créer un nouvel élan. C'est magnifique de ce point de vue-là.
Un élan qu'il faut désormais transformer en force politique pour les législatives. Il reste 5 semaines.
Antoine Gignot et Jean-Luc Mélenchon est l'invité de Questions politiques à midi tout à l'heure sur France Inter, interrogé notamment par Karine Bécard.
L'alternance historique en Irlande du Nord. Après les élections locales de jeudi, les nationalistes arrivent au pouvoir pour la première fois en 100 ans d'existence de ce pays.
Le Sinn Féin, rappelons-le, l'ancienne vitrine politique des paramilitaires de l'IRA, il devance le DUP, le parti unioniste favorable à un rapprochement avec le Royaume-Uni. Le résultat va maintenant devoir être traduit dans les institutions complexes d'Irlande du Nord, un pays en paix depuis seulement 24 ans. Explication de notre correspondant au Royaume-Uni. Richard Place.
Michel O'Neill va occuper le poste de Premier ministre puisque son parti a gagné l'élection. Le Sinn Féin s'est engagé à prendre des mesures rapides pour aider les Nord-Irlandais qui voient leur pouvoir d'achat s'effondrer avec les prix qui s'envolent, le carburant, l'énergie, la nourriture. Mais pour ça, il faut un gouvernement de coalition, ce que refuse le rival unioniste pour l'heure. Alors dans son premier discours, elle tend la main.
Mon engagement, c'est de faire fonctionner la politique. Mon engagement, c'est de travailler en partenariat et pas par division. Nous travaillerons avec ceux qui servent et toutes les autres perspectives politiques. Nous travaillerons ensemble.
L'accord de paix signé il y a 24 ans régit la vie politique nord-irlandaise. Il faut un premier ministre, mais aussi un adjoint, qui vient forcément du camp d'en face. Mais pour l'instant, les unionistes refusent de jouer le jeu, ce que leur leader Geoffrey Donaldson a répété hier.
Je veux un gouvernement en Irlande du Nord, mais il doit être basé sur des fondations solides. Et l'ombre persistante du protocole abîme notre stabilité politique.
Le protocole, c'est celui qui définit la sortie de l'Europe pour l'Irlande du Nord. Cet accord qui ne satisfait personne en renégociation depuis des mois. Les unionistes attendent maintenant une discussion avec Boris Johnson. Elle doit avoir lieu dans les prochains jours. Londres, Richard Place, France Inter.
Allons maintenant dans une ancienne colonie britannique, Hong Kong, où un nouveau chef de l'exécutif a été nommé cette nuit. John Lee, un ancien policier, prend la succession de la très contestée Carrie Lam, l'un des visages de la crise qui secoue le territoire semi-autonome depuis de longs mois. John Lee a un point commun avec sa prédécesseure, il est adoubé par la Chine. Son portrait avec Sébastien Berriot.
C'est en 2019 que John Lee a gagné la confiance de Pékin. Le nouvel homme fort de Hong Kong était alors chef de la sécurité du territoire lorsqu'éclatent les énormes manifestations en faveur de la démocratie. C'est John Lee en personne qui organise la répression brutale du mouvement. À l'époque, il reprend à son compte les thèses de la Chine, assimilant le mouvement pro-démocratie à un complot terroriste. De quoi faire de cet homme de 64 ans un bon candidat aux yeux de Pékin. Son mandat devrait être marqué par la continuité dans le rapprochement avec la Chine, avec un contrôle encore plus étroit des libertés. Mais point d'interrogation sur l'économie, qui est loin d'être le domaine préféré de John Lee après 35 ans de police. Il est resté très vague pendant la campagne sur ses projets qui permettraient de sortir la troisième place financière mondiale de la crise liée au Covid. Les milieux d'affaires ne cachent pas leur inquiétude, notamment sur la question cruciale de l'ouverture des frontières de Hong Kong. Là aussi, John Lee est resté très flou. Pékin, Sébastien Berriot, France Inter.
À retenir dans l'actualité internationale également un rendez-vous diplomatique important aujourd'hui, une réunion virtuelle du G7 avec la participation du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il sera notamment question de Mariupol où la dernière poche de résistance, l'usine Azovstal, n'abriterait plus que quelques défenseurs. Les autorités ukrainiennes craignent une intensification de l'offensive russe dès demain pour le 9 mai, la commémoration de la victoire de la Russie sur l'Allemagne nazie célébrée à Moscou.
Le 9 mai à Moscou et aujourd'hui en France, c'est le 8 mai, nous commémorons nous aussi la fin de la Seconde Guerre mondiale.
L'occasion de se rappeler que des combattants ukrainiens ont participé à la libération de la France. L'Ukraine, pays à l'époque à la fois envahi par les soviétiques et les nazis, des Ukrainiens ont combattu aux côtés de l'armée allemande. Ce qui fait dire d'ailleurs à Vladimir Poutine qu'il y a des combattants nazis en Ukraine de nos jours. Mais certains ont choisi de dire non à l'époque et ont donc contribué à la libération du Doubs chez nous en France. Christophe May.
Oui, en août 1944, un bataillon ukrainien enrôlé dans l'armée allemande est cantonné au camp de Valdahon. À la fois anti-nazi et anti-stalinien, ces soldats et leurs officiers décident de rejoindre la résistance. Ils sont 460 et désertent comme un seul homme avec tout leur armement, canons anti-chars et mitrailleuses lourdes. Dans la nuit du 26 au 27 août, ils neutralisent leur encadrement SS et parviennent à quitter le camp au prix d'un combat qui fera 24 morts parmi les Allemands. Les soldats ukrainiens rejoignent le maquis à Pierrefontaine-les-Varans. Ils se battront désormais avec deux brassards, le tricolore des FFI avec la croix de Lorraine et un jaune et bleu aux couleurs de leur pays. Ils participeront notamment en septembre à la libération de Pontarlier et d'une partie du Haut-Doubs. Sept de ces soldats ukrainiens trouvent la mort lors de ces combats. Ils sont enterrés au cimetière de Vercelles et leur tombe est entretenue régulièrement par le Souvenir français.
Christophe May, les commémorations du 8 mai qui seront présidées par Emmanuel Macron ce matin à 11h. Il va déposer une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe à Paris.
8h12, l'heure des sports.
Bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour.
La nuit a été courte pour les supporters nantais.
Les Canaries plus forts que les Aiglons. Nantes remporte la Coupe de France de football grâce à sa victoire 1-0 sur l'OGC Nice hier soir dans un stade de France en ébullition. Très beau match de supporters aussi dans les tribunes. Les Nantais attendaient de soulever à nouveau ce trophée depuis 22 ans. Et ce succès, ils le doivent à un homme en particulier, l'entraîneur Antoine Comboiré.
Lorsqu'il succède à Raymond Domenech sur le banc du FC Nantes en février 2021, c'est pour sauver le club nantais de la descente en Ligue 2 qui se profile. À peine un an et trois mois plus tard, Antoine Comboiré offre à son club formateur une quatrième Coupe de France. Devant les grilles du Stade de France, les supporters nantais l'encensent, comme Max, venu de Loire-Atlantique.
C'est un ancien du club, c'est quelqu'un qui sort du centre de formation aussi. Il y a une osmose qui s'est fait, c'est un meneur d'hommes. Je pense qu'il a porté son équipe et je pense que l'équipe a ressenti ça et on le voit sur le terrain. C'est un homme que j'adore.
Meneur d'hommes, oui, mais pas seulement, rétorque Antoine Comboiré.
Ben, j'espère que je ne suis pas qu'un meneur d'hommes, je suis un technicien avant tout. Puis surtout, je suis quelqu'un qui aime mes joueurs profondément. Mais ça vient aussi beaucoup de ce que je suis, d'où je viens, donc la Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique. On est une famille, on est un clan, et ça va au-delà donc du terrain. Tous ces joueurs-là, ce sont mes enfants.
Une attitude paternaliste qui convient parfaitement au milieu de terrain, Pedro Chirivella.
Il est comme un père footballistique pour moi, et voilà, il est fantastique avec nous, et je suis très content pour lui aussi.
Et ça marche, car Nantes ne vient pas seulement de remporter son premier trophée depuis 22 ans. Le club nantais s'est également qualifié pour la prochaine Ligue Europa. Les Canaries n'avaient plus disputé de Coupe d'Europe depuis 18 ans.
Et les joueurs présenteront leur trophée à Nantes, au public nantais, donc à partir de 17h. Un match qui se termine au tir au but, mais en rugby, c'est très rare. Le Stade Toulousain s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Europe hier, après une victoire à l'arraché, donc sur les terres irlandaises du Munster. Autre club français qualifié dans le dernier carré, La Rochelle, qui a battu Montpellier. Cet après-midi, le Racing 92 tentera de les rejoindre. Pour ça, il faudra battre les Anglais de Sale.
Du tennis maintenant, et une question, jusqu'où ira Carlos Alcaraz?
L'Espagnol a fêté ses 19 ans il y a 3 jours. On peut dire qu'il s'offre de beaux cadeaux au tournoi de Madrid. Une victoire sur son idole et compatriote Rafael Nadal avant-hier en quart de finale. Une autre sur le numéro 1 mondial Novak Djokovic hier en demi-finale. Donc en plus un match marathon très accroché. Il devient le premier Carlos Alcaraz à battre ces deux monstres sacrés dans un même tournoi sur terre battue. Et donc il est en finale.
Ça me donne beaucoup de confiance. Je sais que je joue un très bon jeu pour le reste de la saison. Je me sens capable d'affronter les meilleurs joueurs et même de les battre, donc je suis en confiance.
Vous pensez qu'il y a une limite à ce que vous pouvez faire ?
Non, je ne crois pas. J'essaie d'avoir de bons résultats, de jouer un bon jeu à chaque tournoi et d'être toujours présent face aux meilleurs. Je vais essayer de faire comme à Miami et je suis très heureux de jouer une deuxième finale de Master 1000.
Carlos Alcaraz au micro de nos confrères d'Eurosport. En finale cet après-midi, il affrontera l'Allemand tenant du titre et numéro 3 mondial, Alexander Zverev.
Et rendez-vous à 18h30 pour ce match. Et Laetitia Bernard dans le journal de Raphaël Delvolvé. Le temps de ce dimanche.
La météo avec Air France. Cet été, ciel dégagé vers plus de 1000 destinations pour partir en toute sérénité avec Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Un temps variable et instable, Jean-Michel Golaski.
Le relief du sud va conserver un temps instable aujourd'hui avec des averses sur l'est de la chaîne des Pyrénées. Une instabilité toujours plus marquée sur le sud des Alpes et par moments orageuse avec en journée des ondées de l'Occitanie à l'Auvergne. Le tout dans un ciel très variable, y compris sur la Corse. Dans la moitié nord, après un début de journée souvent bien gris, le soleil va revenir, mais on va noter pour la seconde partie de journée des averses passagères possibles entre Champagne-Ardenne, le bassin parisien et le centre. Enfin, de la Nouvelle-Aquitaine au Limousin et de la Bourgogne à l'Alsace, les éclaircies seront durables. Cet après-midi, il est prévu 16 à 18 degrés le long de la Manche et sur le Pays Basque. Il fera 21 à Lille, 22 à Brest et à Marseille, 23 à Rennes et Lyon, 24 à Nantes, à Strasbourg et dans la capitale, et 25 degrés à Bordeaux et à Perpignan.
Jean-Michel Golaski, Météo France.